Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Des images marquantes de migrants naufragés ou morts dans le petit Thaïlande en 2015, on s'en souvient, les Français s'en sont émus. Passé l'émotion, la réalité d'envisager l'accueil est tout autre. Entre méfiance et solidarité, il faut souvent passer par la rencontre pour aller au-delà des préjugés. Expérience vécue en région parisienne, on en parle tout de suite. Et pour parler de ces expériences et de ce qui peut se faire, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé de Ferrodi. Bonjour Hervé. Bonjour. De Ferrodi, merci d'être là. Vous êtes président de SNL Essonne, Solidarité Nouvelle pour le Logement. Il s'agit de loger temporairement des ménages, notamment en difficulté, le temps qu'il faut pour leur permettre de se reconstruire grâce à l'accès à un logement adapté et à leurs besoins. Et on verra comment aussi ces logements peuvent servir à des personnes migrantes. J'accueille également Jean-Luc Buisson. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Buisson. Vous êtes le coordinateur de collectifs d'associations de solidarité sur une commune en particulier ?
Non, sur un secteur pastoral.
Voilà.
Parce Donc que un ça se secteur joue pastoral aussi. Qui regroupe 7 communes.
Et c'est le secteur pastoral
de Brétigny-sur-Orge.
Voilà.
Dans l'Essonne.
Cette commune. Donc là, vraiment une implication aussi de l'Église et de la communauté chrétienne.
Tout à fait.
Et nous aurons au téléphone tout à l'heure Roland et Marie France Franquemagne, qui sont à Longpont-sur-Orge et qui justement participent à cet accueil et à ces actions. Je vais commencer par vous, Jean-Luc Buisson. On en parle moins actuellement dans l'actualité, mais c'est toujours malheureusement d'actualité. Ces migrants qui arrivent dans nos communes, ces accueils qui sont organisés, parfois avec une réaction de la population qui est assez négative. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est possible de faire ? Est-ce que cette réaction normale est normale ? D'abord.
Je ne sais pas si la réaction est négative parce que je fais également partie d'une association d'alphabétisation, elle s'appelle Alphabeta, mais elle faisait surtout de l'alphabétisation, mais maintenant on est plutôt vers du français langue étrangère parce que nous recevons un public beaucoup plus jeune. Et un public qui a fait des études et qui vient souvent en France pour s'installer et donc qui a besoin d'acquérir la langue française avant de pouvoir trouver un travail ou faire des études.
Enfin, on a vu quand même des expériences qui se sont au départ pas très bien passées dans le sens où voilà, on avait des a priori, je parlais tout à l'heure de préjugés, avant que les personnes n'arrivent. La situation, on va le voir, change justement. Hein. Quand on rencontre ces personnes en chair et en os, comme vous le dites, on voit le changement d'attitude et on voit peut-être la méfiance se changer en bienveillance. Mais au départ, on a quand même ces préjugés qui sont simplement des signaux de peur.
Absolument, oui.
De peur de l'autre. Hein. Mmh.
Nous avons eu en Essonne, il n'y a pas très longtemps... l'incendie d'un centre d'accueil. Hein. Donc c'est la direction d'hostilité au départ. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un contraste.
On peut expliquer cette hostilité, justement, qu'on a vu dans d'autres communes de France
Je pense que beaucoup de personnes se sentent menacées. Menacées par des gens... Il y a un problème d'identité, je pense, un vrai problème d'identité qu'il ne faut pas brader, hein, je pense. Et quand les gens se sentent menacés, ils ont des réactions qui sont parfois vives et qui sont à côté de ce qu'il faudrait, quoi. Et puis, on va le voir, je pense que ça, Jean-Luc le dira mieux que moi, mais ça peut se transformer. Hein. Et puis, ce n'est pas uniforme. Hein. C'est...
Par rapport à cet incendie qu'il y avait eu justement dans un centre, futur centre d'accueil pour migrants dans l'Essonne, quelle a été la réaction dans l'ensemble de la population ?
J'ai du mal à vous dire. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans ce même secteur, nous avons plusieurs opérations, nous, à SNL, de logement très social et qui sont à peu près qui passent. Enfin, donc, c'est vraiment cette concentration d'immigrés, peut-être la crainte de la violence qui est derrière ça, avec des craintes qui sont je pense, très injustifiées.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a, vous, motivé, Jean-Luc Buisson, pour vous engager, pour être ce coordinateur, justement, de collectif d'associations, au départ ?
Mais parce que je suis déjà engagé pas mal dans... Je suis engagé à la fois dans des mouvements d'église et dans des associations laïques. Donc, et toujours dans le domaine de la solidarité. Je suis rentré au départ. Cette équipe dans laquelle je suis, ça s'appelle Équipe Mission Solidarité. Sur notre diocèse, il y en a un certain nombre. Ce sont des équipes qui ont été créées suite au synode qui a eu lieu, je ne me souviens plus en quelle année, mais il y a 5 ans.
Ça a permis à des personnes de se mettre en marche.
Voilà, absolument. Et donc, dans ces équipes Mission Solidarité, le but, c'est un petit peu de partager ce que chacun vit dans ses engagements. Et c'est un peu le côté transversal, si vous voulez, parce que finalement, souvent, quand on est engagé dans une association, on vit au rythme de l'association et on ne voit pas ce qui se passe à côté. Et finalement, en partageant, on s'est rendu compte que, on avait des personnes à la fois qu'on recevait, par exemple, à l'épicerie sociale, qui étaient hébergées par SNL, et que moi, par exemple, dans notre association d'alphabétisation, la même personne faisait le tour donc on pouvait partager un petit peu le vécu.
Donc, et besoin d'une coordination.
D'une coordination, voilà.
C'est important, finalement, que tout le monde se mette autour de la table.
Oui, les réseaux. Oui, effectivement, c'est une chose sur laquelle j'insiste en ce moment en Essonne, c'est sur la nécessité de constituer des réseaux. Et la fondation Abbé Pierre, là, fortement, le marque chaque année quand elle fait son rapport, qu'une personne, a des tas de facettes, ou de faces, pas des facettes, ce sont des vraies faces, qui se complètent, et on ne peut pas régler le problème du logement, n'est pas indépendant du problème de la santé, n'est pas indépendant du problème du mode d'expression, de la langue, c'est toute la problématique de l'insertion.
Vous le sentez fortement, Hervé de Ferrodi, pardon, au niveau de Solidarité Nouvelle pour le logement, NL, comme vous dites?
Ben oui, parce que nous accueillons des publics qui sont en détresse, qui ne sont pas en urgence, on ne peut pas les prendre, on n'est pas un centre d'hébergement, on prend un public qui sont juste après, qui sont en détresse, qui souvent ont des liens sociaux qui sont extrêmement difficiles. Beaucoup sont d'origine étrangère, et donc ils ont tout à apprendre, tout à lier, il faut qu'ils trouvent du travail, on n'a pas de travail si on n'a pas un toit, donc on leur offre déjà un toit et ça aide pour trouver du travail. Il faut qu'ils prennent leur repère dans la société, et ça voilà. Ils ont des problèmes d'expression, ils ont des tas de... Tout ça, ça se complète. Et c'est vrai que des bons réseaux, c'est essentiel quoi, pour
le
moment.
Le principe de Solidarité Nouvelle pour le logement, c'est quoi? Ça consiste en quoi?
C'est une association qui est spécialisée sur le logement, c'est le volet logement, mais qui intègre quand même toutes les dimensions de la personne, elle accueille des personnes qui sont donc souvent... qui ont eu des parcours très difficiles, qui maîtrisaient mal pour la plupart leur vie, leur situation. On leur propose un logement stable, temporaire au départ, avec rapidement, aussi rapidement que possible, essayer de monter un projet pour sortir. Et ces gens-là sont accompagnés socialement, à la fois par des travailleurs sociaux, donc des professionnels, et par des bénévoles.
Voilà. Alors, comment vous les trouvez, ces logements ?
Beaucoup, ce sont les mairies qui mettent... On est connu. Enfin, alors, il se passe qu'en Essonne, SNL est un des partenaires sociaux. Donc, on est tout de même assez connu de pas mal de mairies. Beaucoup sont... Alors, on va prospecter. On va voir les mairies, ce n'est pas un logement comme si. On a quelques grands axes de développement qui suivent les moyens de transport. Enfin, il faut que les gens puissent aller facilement bosser à l'autre bout de la région parisienne quand ils ont du travail, que ce soit pas un obstacle. Il faut qu'ils soient dans des centres... plutôt complexe urbain, pas dans des banlieues lointaines. Donc, on a quelques grands axes de développement. Et puis, on sollicite les mairies. Des bénévoles trouvent des logements aussi. Par exemple, là, récemment, on a inauguré à l'INA une maison d'un quartier plutôt résidentiel.
Vous vous chargez de restaurer parfois?
Alors, que le restaure, rénover. Voilà. On les rénove. Alors, je prends un exemple d'un bail à réhabilitation. Une mairie a une maison qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Elle nous contacte. Alors, soit on l'achète, soit elle nous le met en bail à réhabilitation. C'est-à-dire qu'elle nous le loue et nous, on le sous-louera plus tard.
C'est un peu le système d'habitat et humanisme.
On est très, très... On est frères.
Il n'y a pas de concurrence.
Non, c'est vrai que c'est tentant de faire de la concurrence, mais là non, comme malheureusement, pour parler un langage d'économiste, le marché est très ouvert. Il faut surtout pas se faire concurrence. D'ailleurs, avec Roland Frankmann, comme on entend tout à l'heure, on est tous les deux sur les mêmes terrains en Essonne du logement très social et on s'entend comme la roue en foire.
Vous avez la connaissance de ce terrain, de ce territoire en particulier.
Voilà. Et donc, beaucoup de logements viennent par les municipalités, par les bénévoles. Des particuliers mettent des logements à disposition, d'autres en vendent. Voilà, il y a des sources assez variées.
Je parlais tout à l'heure de préjugés et d'idées parfois, enfin d'accueil difficile, parce qu'on peut se dire, voilà, moi j'attends un logement depuis longtemps, j'ai des difficultés, etc. Et puis on va peut-être loger le migrant qui vient d'arriver et lui allouer ce logement.
Oui, c'est un vrai problème qu'il faut, je ne sais pas comment, enfin on n'a pas de règles précises. C'est vrai que les gens que l'on héberge sont pour les trois quarts en dessous du seuil de pauvreté, hein, ou quasiment, hein. Et plus de la moitié sont à la moitié du seuil des pauvres. Donc, c'est des gens qui ont très, très peu de ressources. Et on se dit, mais comment faire un choix dans les misères ? Voilà. Ça, c'est un vrai problème.
Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, faire un choix dans les misères ?
Alors, c'est sûr qu'on n'hébergera que des gens qui sont en détresse. Bon, les détresses sont multiples. Hein. Ça peut être des chocs comme les chocs de la guerre, hein, les chocs de la vie, plus généralement. Voilà, donc c'est toujours un choix qui est difficile, qui est jamais entre un Syrien et qui sort d'un conflit, qui a encore des traumatismes très 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 vifs chez lui, mais qui a des ressources, qui a un bagage intellectuel et quelqu'un qui a fait un parcours plus long, qui a traversé pas mal de pays, et qui est installé en France déjà depuis un petit moment, mais qui cherche ses repères. Voilà, il faut trouver il faut faire des choix. Ils sont toujours sur le fil. Je crois que c'est une richesse du système. C'est de ne pas avoir de choix préformés qu'il faut... Voilà, il faut sans arrêt que ce soit mis en question, qu'on s'interroge. Je crois que c'est important.
Au sein des communautés, Jean-Luc Buisson, au sein des communautés chrétiennes, c'est rentré petit à petit les esprits dans les cœurs, le fait de pouvoir accueillir comme ça des personnes, d'ouvrir sa porte.
Alors, c'est-à-dire que... Enfin, moi, je voudrais peut-être revenir un peu sur l'origine, parce que vous parliez justement du problème d'accueillir des familles de réfugiés à la place ou dans des logements qui seraient destinés à des personnes qui sont déjà en attente de logement. Et effectivement, nous, sur notre commune, quand notre maire a annoncé l'accueil d'une dizaine de réfugiés, enfin, c'était prévu, ils ne sont jamais venus, mais quand ça a été annoncé,
il y avait le projet.
Les gens se sont posés la question en disant « Mais nous, on est en attente de logement et vous allez héberger une dizaine de réfugiés dans la commune. » Donc, effectivement, il y a un problème de fond. Après, c'est un choix de politique
en général, au sens noble du terme.
Voilà, de la commune. Donc ça, c'est quelque chose chez nous qui avait été annoncé en octobre 2015. Et quand la commune a annoncé cet accueil de réfugiés, nous, au niveau de la communauté catholique, on s'est dit, si la commune accueille des réfugiés, il faut que nous, on puisse proposer éventuellement de participer à cet accueil. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un recueil des compétences qu'on pouvait mettre à disposition de la commune. Et puis après, on a fait un courrier en disant, ben voilà, le jour où vous accueillerez des réfugiés, la communauté catholique pourra mettre à disposition un certain nombre de compétences et participer aux équipes qui seront chargées de gérer l'accueil.
Est-ce que les personnes avaient aussi reçu cet appel du pape François, maintes et maintes fois répété, relayé par la conférence des évêques, par les paroisses?
Voilà, alors ça, effectivement, l'accueil du pape, l'appel du pape, ça a été quelque chose sur lequel on s'est appuyé, en plus, pour nous, au niveau des communautés, sensibiliser, voilà.
On va continuer de parler de ce sujet de l'accueil des migrants et des réfugiés sur nos territoires. On va faire une première pause dans l'émission et puis nous aurons également au téléphone Roland Frankmann qui va nous parler de cette expérience.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène tous les mardis et jeudis à 16h dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les mardis et jeudis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Vous voulez vendre un appartement ou une maison dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien ? La Grandière Immobilier, au cœur du 16e arrondissement, est le spécialiste incontournable depuis deux générations. La Grandière Immobilier, le seul professionnel qui s'affiche comme le défenseur des intérêts exclusifs des propriétaires vendeurs. Vous en aurez la preuve en découvrant nos prestations particulières sur notre site ou en venant nous voir au 79 Avenue Mozart. Vous comprendrez ce que signifie pour nous le sens des valeurs et vous le partagerez sûrement avec la Grandière Immobilier.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
L'année dernière, vous avez été des milliers à nous rejoindre pour nous écouter et nous soutenir, tous conscients de l'utilité d'un média comme le nôtre. Aujourd'hui, nous voulons vous remercier et vous demander de convaincre autour de vous de nouveaux auditeurs capables de s'engager à leur tour dans cette formidable aventure. Car nous croyons à l'originalité de cette antenne, à la place qu'elle doit occuper dans le monde d'aujourd'hui. Rejoignez-nous en nous apportant votre soutien au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr.
En quête de sens, Sophie Noailles.
Comment accueillir le migrant et le réfugié sur son territoire ? C'est le sujet d'aujourd'hui en quête de sens. Avec toujours en studio Hervé de Ferraudy, président de Solidarité Nouvelle pour le Logement dans l'Essonne. Et puis Jean-Luc Buisson, coordinateur de collectif d'associations de solidarité sur un secteur pastoral du département de l'Essonne, du diocèse d'Évry. Et on va rejoindre au téléphone Roland Franquemagne. Merci de nous rejoindre par téléphone, Roland.
Bonjour.
Merci et bienvenue. Donc vous avez vécu cette expérience, vous la vivez toujours d'ailleurs, hein, sur votre commune à Longpont-sur-Orge. Comment vous vous êtes mobilisé, Roland ? Comment vous vous êtes engagé dans cette démarche auprès des réfugiés ?
Alors, comme vous l'avez dit un peu tout à l'heure, tout a commencé à la rentrée 2015, en septembre 2015, avec ce qu'on a pu vivre, ce que chacun a pu vivre. Et moi, il se trouve, comme Hervé le rappelait tout à l'heure, que je préside une association contre le mal-logement également. Et on m'a assez vite interpellé en disant « Mais qu'est-ce que tu fais pour les migrants ?» Et à plusieurs familles, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire justement pour les migrants. Je ne souhaitais pas que les migrants soient prioritaires, comme ça a été rappelé tout à l'heure, par rapport à des Français qui attendent le logement. Et puis, il y a une deuxième chose à laquelle on a réfléchi. On s'est dit que le meilleur accueil qu'on pouvait faire pour un migrant, de façon à ce qu'il s'intègre bien et à ce qu'il apprenne la langue, c'est de l'accueil en famille. Alors, on s'est retrouvé à 6 familles, à discuter entre nous en disant, ben voilà, comment on va s'y prendre pour accueillir un migrant chez nous. Et assez rapidement, on s'est dit, eh ben, ce qu'il faut, c'est qu'il vive un mois de son temps dans chacune des familles. Alors, pourquoi un mois ? Un mois, c'est long, un mois, c'est court, mais ça permettait à la personne, aux migrants, de s'installer pendant un mois, puis après de repartir dans une autre famille et d'apprendre tout ce qui pouvait se passer dans chacune des familles françaises. Alors, une fois qu'on a eu décidé ça, on s'est mis en rapport avec le CADA de Brétigny. Le CADA, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui est tenu par la Croix-Rouge et qui ont trouvé notre idée intéressante et un peu novatrice, puisque ça ne se faisait pas ça, à l'époque. Et c'est ainsi qu'au bout de une ou deux réunions, ils nous ont parlé d'Ahmed. Ahmed, qui était un jeune Soudanais venant du Darfour, qui a été obligé de fuir son pays parce que sa vie était menacée.
Donc lui qui a un statut de réfugié, j'imagine.
Alors oui, il était passé de migrant au statut de réfugié, ce qui était important pour nous parce qu'on ne voulait pas avoir à gérer toute la partie papier. Parce que on était qu'un collectif de 6 familles qui accueille un réfugié. Et comme on était un collectif constitué, mais pas qui reposait pas sur des bases juridiques, et on voulait pas créer une association pour faire des choses comme ça, on s'est rapproché du Secours catholique en leur demandant d'être en quelque sorte un référent au cas où il y a un problème important qui puisse se poser, notamment un problème d'argent. On ne voulait pas qu'il y ait d'histoire d'argent entre nous et Ahmed. C'était très important pour maintenir ce climat de confiance qui s'était installé. Et donc, les choses sont parties comme ça. Et c'est ainsi qu'Ahmed est arrivé dans une famille. La première famille, c'était la famille de Florence et d'Alain, en janvier 2016. Et là, évidemment, avec toutes les inquiétudes que cela pouvait poser, d'accueillir quelqu'un d'étranger à la maison.
Mmh. Quelles étaient ces inquiétudes
qui a bien vécu ça.
Marie-France.
Oui.
Marie-France, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc l'épouse de Roland. Oui, quelles étaient ces inquiétudes, j'imagine légitimes, évidemment, dans ces familles?
Alors, c'est rigolo parce que c'est des inquiétudes d'abord des deux côtés. Parce que la première réunion avec Ahmed, c'était dans une salle paroissiale, autour d'un petit déjeuner. On était tous contents de le voir. Mais en fait, lui, il était affolé, et nous un petit peu aussi. Il y avait le barrage de la langue, il y avait ce garçon qui se retrouvait avec des gens qui n'étaient pas de sa génération. On est tous plutôt, pas tous des retraités, mais enfin, on est tous des familles un peu sorties des enfants jeunes, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le faire. Mmh. Et donc déjà, il y avait un petit peu de stress. Mais quand on en parle à d'autres gens en disant « voilà, on accueille un réfugié », ce qui affole le plus les gens, c'est le côté domestique. C'est-à-dire les réflexions qu'on a entendues. Oui, mais le matin, quand on se lève, on le croise, on peut être en pyjama au petit déjeuner, c'est gênant. Je sais pas, la salle de bain.
De bonnes questions matérielles.
Comment ?
De bonnes questions matérielles quotidiennes.
Oui, matérielles, et puis qui touchent à l'intimité des gens. C'est quand même.
C'est une intrusion, effectivement, dans la vie.
Comment ?
C'est une intrusion dans une vie quotidienne.
Les gens craignent énormément ça. Alors, c'est vrai que nous, au départ, on a dit, on a des grands-enfants qui sont mariés, quand ils reviennent à la maison, c'est ça. Non, mais non, c'est pas ça, en fait, c'est un peu différent.
Et alors, comment ça s'est passé au final ?
En fait, je crois que déjà, au départ, il faut quand même pas être trop sur ses gardes pour ça. Il faut être simple quelque part. Je crois que des gens qui veulent n'arriver le matin que maquillés, habillés pour la journée, pour être sûr, ça peut pas. C'était difficile. Pour ce qui est mon cas, quand je me levais et qu'Ahmed était déjà levé, j'avais ma robe de chambre et voilà, et on prenait le petit déjeuner en robe de chambre. Hein. Si j'étais pas habillée, j'étais pas habillée.
Est-ce que vous êtes intéressé au départ, ou est-ce que vous aviez des éléments de son parcours? Parce que quittant le Soudan pour arriver jusqu'en France, j'imagine que ce parcours ne s'est pas fait comme ça directement. Est-ce que ça a été aussi l'intérêt de se pencher sur cette situation?
Alors là, ça a été à la fois une grosse... Je repasserai Roland parce qu'il vous racontera aussi, mais ça a été effectivement pour nous la découverte réelle de ce qu'on voyait à la télé, à des infos, mais d'un œil un petit peu superficiel. Par exemple, la première fois qu'on lui a dit « Mais comment ça s'est passé ?», il nous a répondu « Tac, 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 tac », avec un air vraiment affolé, quoi. En fait, il a vécu des moments extrêmement, extrêmement difficiles. Très, très difficile.
Et les questions faisaient remonter les traumatismes.
Ah, tout à fait. À la fin, on a dit « Non, on arrête pour l'instant ». Parce que c'est pas possible, s'il était à vif sur ce sujet. Ça, c'est certain.
Par rapport à cette insertion, Jean-Luc Buisson, ces associations sont là pour aider justement à faire comprendre comment on peut entrer en contact avec un migrant, un réfugié, un demandeur d'asile, pour cheminer avec lui.
Mais nous, on avait la même inquiétude, puisque nous, on n'avait aucune expérience... dans l'accueil des réfugiés. Et c'est pour ça que...
Ça ne s'improvise pas, l'accueil.
Absolument. Donc, je pense qu'on a fait un peu la même chose. Nous, comme on s'est dit quand même que c'était quelque chose... C'était une grosse responsabilité. Il ne fallait pas faire ça d'une manière... Il fallait que ce soit professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est, nous aussi, tourné vers le Secours catholique, qui a un pôle... Voilà, qui a l'expertise.
Ouais.
Donc, on a rencontré les responsables de l'accueil migrant qui nous ont donné un petit peu les directives pour qu'on fasse un accueil qui soit correct et professionnel. Et donc, on s'est tourné vers le Secours catholique. Et à l'époque, on s'est également tourné vers Solidarité Nouvelle pour le Logement, pour qu'il nous explique les possibilités, puisque nous, on avait des demandes d'accueil de famille, donc les possibilités d'accueil dans le réseau de leur logement. Voilà.
Roland et Marie-France, qu'est-ce que ça a bouleversé dans vos vies, en fait, cet accueil d'Ahmed? Et puis, je crois que vous avez vécu une autre expérience avec Johnny aussi.
Alors, ce qui a, quand Ahmed, au bout d'un certain temps, était chez nous, il nous a raconté son histoire, comme disait Marie tout à l'heure, comme on a pu la vivre à la télé, c'est-à-dire qu'Ahmed est parti du Darfour à pied. Ahmed a traversé toute la Libye, avec tous les dangers que ça comporte. Après, Ahmed a traversé la Méditerranée, comme on l'entend tous les jours, dans une petite coque de noix. Ahmed a été recueilli sur un plus gros bateau. Ahmed a fait l'Italie et Ahmed est arrivé à Paris, où là, il est tombé sur des gens qui l'ont un peu aidé. Et il s'est dit, finalement, pourquoi poursuivre ma route jusqu'à l'Angleterre ou jusqu'à l'Allemagne? Je vais rester à Paris. Et il s'est retrouvé après, donc à Brétigny, puis chez nous. Donc Ahmed nous a beaucoup appris sur les migrants, parce qu'entre entendre ça à la télé ou à la radio, et puis écouter Ahmed raconter ça avec toute son émotion, ça change complètement les choses. Et puis Ahmed, au quotidien, en fait, Ahmed, dans sa vie en famille, Ahmed était allé à l'école tous les matins, et donc nous, ça nous a rappelé des bons souvenirs, puisque le soir, il fallait demander à Ahmed s'il y avait des devoirs à faire, et puis l'aider à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons pour le lendemain. En fait, ça a été, c'est quelque chose de très riche, parce qu'on apportait beaucoup à Ahmed, parce qu'évidemment, il était totalement plongé dans un milieu où il pouvait apprendre le français la journée, et y compris le soir en famille et pendant les repas.
Et lui avait à cœur aussi d'apprendre le français.
Alors, en fait, était très, très volontaire. Ahmed voulait absolument apprendre le français. Ahmed a beaucoup d'ambition pour lui. Et oui, bien sûr, il avait à cœur de nous montrer qu'il pouvait le faire et de nous montrer qu'il savait le faire.
D'où donc cet accueil bienveillant et puis cette entraide qui s'est exercée, qui s'est mise en place en fait autour de lui. Hein. C'est ça qui est important.
Alors oui, et je voudrais souligner en fait que c'est pas compliqué. Faut pas avoir peur. Effectivement, c'est une intrusion dans la vie, mais un jour, on peut se poser des tonnes de questions avant. Mais un jour, il faut plonger. Et puis en fait, accueille maintenant Ahmed, à 6 familles. C'est-à-dire que Ahmed, quand il se promène entre Longpont et Billiers-sur-Orge, il sait qu'il peut compter sur 6 familles. Et les 6 familles sont très, très contentes de le recevoir. Il fait vraiment maintenant partie des familles. Donc, j'insiste vraiment, parce que quand on raconte notre histoire, souvent, on trouve que c'est une belle histoire. Mais ce n'est pas qu'une belle histoire, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mmh. Et si on pouvait convaincre d'autres personnes de faire pareil, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et pour le réfugié et pour les familles. C'est quelque chose de très important.
Alors, Roland, si on a compris, donc Ahmed n'est plus dans ses familles. Qu'est-ce qu'il devient maintenant?
Alors, Ahmed, en fait, au bout de 6-8 mois, a obtenu un logement, enfin une chambre chez Adoma, où là, maintenant, il a son autonomie. Ahmed a fêté ses 25 ans au mois d'août dernier, donc Ahmed a pu bénéficier du RSA. Et donc, il continue son parcours scolaire. Il a déjà fait un premier stage d'électricien. Il va en refaire un autre bientôt, prochainement, parce qu'il se dirige vers le métier d'électricien. Donc, ça veut dire que maintenant, on est mûr et on a donc recontacté le CADA de Brétigny pour accueillir à nouveau un nouvel Ahmed.
Voilà, c'est magnifique, finalement.
Alors, il y avait quelque chose d'intéressant. Quand tout à l'heure, je parlais de ses 25 ans. Au mois d'août dernier, on a fêté les 25 ans d'Ahmed. Donc, Ahmed, ça faisait un an qu'il était en France, mais ça faisait que 10 mois qu'il était hébergé en famille. Et on s'est retrouvés toutes les familles ensemble à fêter son anniversaire. Et à la fin, au moment du gâteau, Ahmed s'est levé et nous a fait un discours en français. Quand on, C'était assez.
C'est un beau cadeau qu'il fait, qu'il a fait à ses familles.
Ouais.
D'accueil. Ces familles qui l'ont aidé, en fait.
C'est ça. Et on voit qu'au bout d'un an, Ahmed était capable de s'exprimer correctement en français pour pouvoir remercier et dire qu'il était très très content d'être parmi nous.
Voilà, Roland et Marie-France, pour terminer, donc par rapport à des personnes qui nous écoutent et voilà, qui sont sans doute aussi remplies d'émotions à la vue de ces migrants qui arrivent ou qui sont prévus d'arriver dans nos communes encore. Et quelle attitude peut-on avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a plein de choses. Je pense que toutes les solutions qu'on a pu évoquer ce matin sont bonnes. C'est-à-dire que l'accueil en famille, nous, on a choisi ça parce qu'on estimait que c'était quelque chose de très intéressant pour Ahmed, pour un réfugié, parce que ça lui permettait de bien s'intégrer. Par contre, on sait qu'il y a des réfugiés qui ne souhaitent pas être accueillis en famille et qui préfèrent avoir un logement. Donc la solution du logement, pour moi, elle est bonne. D'ailleurs, je pense qu'il faut absolument que les gens, déjà en discutant entre eux, trouvent des solutions, même si nous on est un collectif de famille un peu en l'air, en fait on a quand même fait les choses de façon très professionnelle parce qu'on était un peu quand même dans ce courant-là.
Et adapté à la personne accueillie.
Et adapté à la personne accueillie. Et nos familles, en fait, c'est des familles qui sont assez différentes. Il y a des actifs, il y a des retraités. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et il y a également le prêtre de la paroisse qui a voulu absolument se joindre à ce collectif-là. Donc ça a permis, en plus de tout ça, de belles rencontres entre les familles qui ne se connaissaient pas toutes forcément au départ. Enfin, c'est gagnant sur tous les tableaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, on n'a pas hésité à redémarrer, à recommencer dès qu'Ahmed a trouvé cette chambre chez Adema.
Roland et avec votre épouse Marie-France, vous l'avez fait au nom de quoi, cet accueil?
Vous connaissez l'Évangile?
Notamment celui de ce matin.
Oui.
Qui est à point nommé. On le citera tout à l'heure.
D'accord.
Voilà, merci beaucoup Roland, merci Marie-France pour votre témoignage et puis si ça peut aider justement d'autres à entrer dans cette même démarche, on va continuer, je vous invite à écouter la suite de l'émission. En tout cas, merci infiniment pour votre témoignage.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci. Jean-Luc et Buisson et Hervé de Ferrodi, il y en a d'autres, des exemples comme ça. Oui. Je pense à cette personne qui s'appelle Johnny, qui a aussi... suivi ce parcours un peu, qui a été entouré par plusieurs associations aidées.
Voilà. Alors, Johnny, il est arrivé en France.
C'est un Syrien.
C'est un Syrien, voilà. Il est arrivé en France en avril donc 2016. Mais il est passé par le Liban, où il est resté 3 ou 4 mois, le temps de faire sa demande pour pouvoir rentrer sur le territoire français. Et donc... par l'intermédiaire, toujours pareil, parce que les communautés syriennes ont tout un réseau.
Donc, irakiennes et syriennes, effectivement.
Voilà. Oui. Donc, par l'intermédiaire du gardien de la cathédrale d'Évry, qui est syrien également, donc, et l'intermédiaire de l'œuvre d'Orient, c'est comme ça qu'il est venu puisque nous, on cherchait donc à accueillir un réfugié. Donc, il est venu sur la commune de Marolles en Urpois, donc qui fait partie de notre secteur pastoral. Donc il a été accueilli en avril donc 2016. Alors le problème qui se posait pour l'accueil, c'était le logement. Donc nous, la seule solution qu'on avait, c'était une caravane qui est toujours installée dans les locaux, dans les salles paroissiales. Donc... de la commune de Marolles.
Vous n'avez pas pu trouver un logement
en
dur.
On n'a pas pu trouver de logement. C'est un peu pour ça qu'après, on pourra revenir sur notre projet avec Solidarité Nouvelle pour le logement, parce que le fait de ne pas trouver de logement, ça nous a fait poser d'autres questions. Donc, pour revenir à Johnny, donc Johnny, 25 ans, donc arrivé à Marolles, et une équipe s'était constituée pour pouvoir l'accueillir. Donc, il a pu bénéficier à son arrivée. Donc, il a été accueilli dans les familles pour partager. Alors, la grande difficulté, c'est qu'il ne parlait pas français.
Mm-hmm. Mais il y avait le fameux gardien de la cathédrale.
Voilà, de temps en temps. C'est mais ça. Bon, chacun ayant Chadi. Son... Chadi, oui, voilà. Mais il a aussi son activité à la cathédrale. Donc, mm-hmm. Johnny parle anglais. Donc, le premier objectif, c'était effectivement qu'il puisse parler correctement, apprendre le français. Donc, il a commencé des cours au départ avec une association sur Évry, là où est logé justement le gardien de la cathédrale, qui a vraiment fait le relais et qui l'a aidé aussi à obtenir son statut de demandeur d'asile, puisque c'était ça le premier objectif. Donc, il est demandeur d'asile et depuis, il a déposé sa demande pour être réfugié, qu'il n'a pas encore obtenu.
Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire quand on est demandeur d'asile ?
Quand on est demandeur d'asile, on ne peut pas travailler. Même pour avoir un logement, on peut éventuellement être logé dans un CADA ou logé gratuitement chez quelqu'un, puisque quand on a le statut de demandeur d'asile, on reçoit à peu près 300 euros par mois. Et on a le droit également, c'est un peu plus de 300, mais il y a une partie qui sert à payer un titre de transport. Parce qu'évidemment, aussi, la grande difficulté, quand on est réfugié comme ça, c'est que pour pouvoir se déplacer, il faut utiliser le transport en commun. Donc, ils ont la carte qui leur permet d'utiliser les transports en commun. Donc, le premier objectif pour Johnny, c'était vraiment le français. Donc, il a démarré à Évry donc avec une association, mais c'était des cours collectifs. Et comme moi, je fais partie d'une association d'alphabétisation à Brétigny,
Alphabeta.
Donc j'ai fait un appel aux formateurs de l'association. Il y a à peu près 45 formateurs qui donnent des cours semi-individuels. Donc j'ai demandé si pendant les vacances, parce que c'était ça notre questionnement, on s'est dit juillet-août, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne parle pas français. Donc nous avons eu la chance, nous avons deux formateurs qui se sont bénévoles donc sur juillet et août. Et donc ils l'ont pris à tour de rôle, un jour sur deux l'un et l'autre. Et donc juillet-août, il a eu des cours du lundi au vendredi tous les matins.
L'alphabétisation, l'apprentissage du français.
L'apprentissage du français.
Une étape importante. On va poursuivre sur cette expérience avec Johnny après une pause musicale dans l'émission.
Radio Notre-Dame.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru se le voir, que la cour du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer
Lily,
sa peur,
Pierre Lily, Perret sur Radio Notre-Dame. Dans quel de sens on parle aujourd'hui de l'accueil des migrants, des réfugiés dans des communes sur notre territoire. Alors, on l'aura compris, c'est vrai que ce n'est pas que l'histoire d'une bonne volonté généreuse. Ça ne suffit pas à un moment donné. Il faut qu'il puisse y avoir des soutiens d'associations, en tout cas une organisation qui s'adapte aussi à chaque cas. Et c'est ce que vous faites, Hervé de Ferraudy et Jean-Luc Buisson, dans le cadre, vous, Jean-Luc Buisson, du collectif d'associations des solidarités, et Hervé de Ferraudy au niveau du logement avec Solidarité Nouvelle pour le logement. C'est important, hein, justement, d'aller au-delà de la bonne volonté.
Oui. D'abord, ce qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est qu'il y a beaucoup de générosité. Il y a peut-être de la peur, mais il y a beaucoup de générosité chez les gens. Et la réponse à l'accueil des migrants, et surtout des réfugiés du Moyen-Orient, était quand même assez forte. Donc ça, c'est très agréable, c'est très sympathique, c'est très plaisant, et ça donne des raisons d'espérer quand même. Et on se dit aussi, et donc on a vu des bonnes volontés se manifester, et on s'est dit, mais il ne faut surtout pas qu'elles s'engagent dans des voies qui ne seront pas maîtrisables. Et c'est là que nous, associations, nous avons un rôle à jouer, parce que nous sommes compétents en matière de gestion locative, nous sommes compétents aussi en matière de bâti. Et qu'une personne généreuse donne d'elle-même pour finalement se trouver dans une situation qu'elle ne peut plus du tout tenir, c'est décourager des personnes, c'est désastreux. Donc voilà. Et c'est pour
c'est
ça
arrivé.
Et je n'ai pas ma connaissance, mais j'ai vu des gens qui ont pris des risques énormes, qui s'en sont bien sortis, mais qui ont pris des risques énormes. Hein. Donc ça, c'est tant mieux pour eux. Voilà. Et donc, SNL s'est plutôt positionné en aval en disant, nous, il faut accompagner ces gens-là. Quelles sont nos capacités? Alors, l'association est répartie dans les divers départements de la région parisienne. Et globalement, on s'était dit, bon, on va prendre comme ça, a priori, on va essayer d'héberger une trentaine de personnes. Et comme en Essonne, Solidarité Nouvelle pour le Logement à Essonne représente la moitié du système, on s'est dit, nous, ce sera 15 à peu près. Voilà. On n'est pas encore là. Et on se rend compte, comme le disait Roland, qu'on connaît d'ailleurs parfaitement bien, nous sommes des copartenaires en sortant comme la roue en foire sur le problème du logement. Il n'y a pas de solution miracle, il y a des solutions et il faut toutes les explorer. Ça peut aller d'une personne qui met à disposition un logement. Ça peut être l'association qui met à disposition. Alors, elle le met à disposition de l'association qui gère. Et puis, l'association d'accueil, choisit les personnes. Et voilà. Ça peut être aussi l'association de logement, nous, ou bien le Monde en Marche de Roland à Lampont, qui met un logement à disposition avec quelques clauses. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire avec nos amis de Bretigny. Essayer de. Eux voudraient être porteurs d'un projet immobilier sur lequel ils auraient une certaine maîtrise. Et en attendant, on va essayer de mettre un logement à leur disposition. Et donc, ils auraient une maîtrise du choix au départ, en restant dans ce registre social. Et puis, pour éviter que le logement soit vide pendant quelques temps, eh bien, SNL pourrait aussi beaucoup de gens à loger. Donc, il faut trouver un agrément ensemble. Donc, ça, ce sont deux solutions. Aux Molières, c'est une famille qui a mis un logement à disposition aussi, donc que Solidarité Nouvelle pour le logement a pris en gestion. Voilà, et puis il n'y a pas de formule miracle. Quoi. Mmh.
C'est ça qui est important, Jean-Luc Buisson. On le comprend bien aussi que tout est possible finalement quand les gens se mettent en marche, quand les gens ont décidé justement de devenir acteurs. On peut accueillir dans de bonnes conditions en travaillant ensemble.
Absolument.
C'est ça qui est important.
Oui, c'est vraiment très très important, surtout je crois que c'est un peu ce que rappelait Hervé de Ferraudy, c'est ce travail associatif et ce mixage des réseaux.
Qu'est-ce que ça a changé dans les paroisses que vous côtoyez? Parce qu'on a beau lire, et tout à l'heure on faisait référence à l'évangile d'aujourd'hui, et l'évangile nous le rappelle, hein, ce que vous avez fait au plus petit de tous les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il faut lire l'évangile d'aujourd'hui, qui nous rappelle justement cet impératif évangélique.
Mais c'était la base un petit peu de notre collectif d'associations de solidarité, c'était justement d'avoir ce regard vers les plus petits.
Mmh. Mais plus que le regard, mettre en œuvre.
Mettre en œuvre également. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Ce qu'on a essayé de faire pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est qu'on communique régulièrement aussi sur l'évolution du projet. Et alors, bon, c'est sûr que maintenant, avec les mails, et les... donc on arrive maintenant régulièrement, par exemple, à communiquer au niveau de la situation de Johnny vis-à-vis de notre, de tout notre réseau.
Les gens ont besoin de voir, effectivement, que leur engagement porte du fruit.
Porte du fruit, voilà.
C'est ça.
Et que ce n'est pas quelque chose qui est tombé... voilà, on en a parlé une fois et puis maintenant, c'est fini. Donc voilà, il faut régulièrement... et moi, je vois samedi soir, à la sortie de la messe, j'ai des paroissiens qui m'ont dit « Ah, alors votre projet, ça y est, ça avance, le projet de logement, on a vu... » bah, c'est-à-dire qu'on a fait une rencontre.
Les gens sont attentifs.
Les gens sont attentifs quand même. Donc, on essaye au plus de témoigner, de faire des petits messages sur nos feuilles paroissiales, pour dire où on en est, qu'est-ce qui se passe, voilà.
Alors, où en est-on avec Johnny, justement ?
Alors, Johnny, très bonne nouvelle, puisque notre inquiétude, c'était qu'il passe tout l'hiver dans cette caravane, donc quand même des conditions très difficiles. Et une famille de Marolles-en-Urpois l'a accueilli, donc dans un logement. C'est une famille qui a... des logements pour des étudiants et donc elle a mis à disposition en disant « Johnny, ben, tant que tu as ce statut de demandeur d'asile, donc on t'accueille chez nous, mais gracieusement, jusqu'au jour où tu auras ton statut de réfugié. » Et à ce moment-là,
il pourra voilà, trouver un travail.
Parce que quand il aura son statut de réfugié, ben, il aura le droit au RSA, etc. Donc avec des revenus plus conséquents, et il pourra travailler.
Voilà. Il a à cœur de trouver un travail.
Il a à cœur. Alors pour l'instant, il travaille le samedi après-midi. Alors il n'a pas, voilà, il n'a pas le droit de donc gracieusement chez un coiffeur à Paris. Et alors on est un peu surpris parce que il a arrêté ses études après son baccalauréat. Ensuite, il a été enrôlé dans l'armée syrienne comme infirmier pour accueillir des blessés dans les hôpitaux, etc. Et donc, nous, on pensait plutôt qu'il allait s'orienter vers
reprendre des études médicales,
enfin, infirmier, etc. Et bon, a priori... donc, pour l'instant, c'est sûr que c'est lui qui gère son projet de vie. Hein. Nous, on l'accompagne.
C'est son parcours.
C'est son parcours, voilà. Donc, notre prochain objectif, c'est que maintenant qu'il... Il a énormément progressé en français. Donc maintenant, c'est qu'il rencontre une conseillère d'orientation pour faire son choix de vie personnelle. Voilà.
C'est gratifiant, Jean-Luc.
Ah oui, c'est toujours gratifiant parce que... Bon, quand on voit... Enfin, moi, j'ai vu Johnny arriver, il ne parlait pas un mot de français. Maintenant, on s'envoie des SMS, il me répond au téléphone. Voilà, c'est... Bon, on a un contact beaucoup plus fort... Et puis, je pense que même avec la communauté paroissiale, il a rencontré des jeunes. Et donc, il est intégré, voilà. Tout en ayant toujours aussi des relations avec la communauté syrienne sur la région parisienne. Donc, il a beaucoup d'amis maintenant. Donc voilà. Donc, on est très optimiste sur...
Une belle expérience.
Voilà, cette expérience.
Hervé de Ferraudy, les projets à venir alors pour Solidarité Nouvelle pour le logement ?
Bien, pour l'instant, l'objectif, c'est quand même, comme le marché, comme je le disais, est immense et que tous les moyens d'État ne sont pas épuisés. D'ailleurs, il y a des fonds qui ne sont pas entièrement utilisés. On a une obligation morale de nous développer. Voilà. Mais comme l'association a déjà tout de même... 400 logements en Essonne, 1 000 sur la région parisienne pour l'ensemble.
Combien de personnes dans l'association pour gérer tout ça ?
Il y a, pour l'Essonne, il y a 27 salariés et 350 bénévoles. Donc ça fait un
grosse
effet de relais.
Grosse association quand même.
Oui. Et cet effet de relais, j'aurais un petit peu insisté là-dessus, on l'a à tous les niveaux. La loi Besson a permis, avec un apport de personnel de fonds, de déclencher un certain nombre de subventions qui complètent le financement. Donc,
pour la réhabilitation de logements.
Il y a un effet de levier très important pour la réhabilitation de logements. Et là, on est un petit peu dans les mêmes processus que quelques initiatives déclenchent des relais. C'est ce qu'on appelle de la mobilisation de la société civile, un peu en langue de bois, en jargon. Hein. Mais c'est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. Et ces actions, bon, je vois chez vous, et je vois au Molière, par exemple, où une famille, des Syriens ont été accueillis par tout le village. Hein. Le maire, les associations, les paroisses, etc., tout le monde s'y est mis. Hein. Ça, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important, de réconfortant. Et puis, quand on voit des gens qui ont traversé des situations extrêmement difficiles et qui en sont sortis, qui sont encore fragiles, et qui reviennent vers nous par sympathie, c'est émouvant, enfin, c'est très motivant. Et on voit aussi des cadres. Je voudrais dire un petit mot sur les mécénats de compétences. Vous avez des entreprises dont les cadres sont peut-être en fin de carrière et leur donnent le choix. On vous paye. On vous verse votre salaire, mais vous êtes mis à disposition d'une association. Le salaire est perçu comme un don qu'on fait à l'association, et donc on est défiscalisé là-dessus. Et on voit des cadres de haut niveau qui se sont engagés là-dedans, qui ont trouvé un sens, on parlait de sens, hein, qui ont trouvé un sens autre à leur vie et qui sont à fond, mais alors qui donnent tout...
C'est votre cas, Hervé?
Non, moi je suis un retraité standard.
Mais qui mettait aussi vos compétences quand même.
Oui, mais ça, c'est une vieille histoire. Il y a très très longtemps qu'on s'était engagé dans les problèmes de logement dans le 15e arrondissement dans les années 70. Vous voyez, c'est de la vieille histoire. Hein. Au moment où Paris changeait de figure un petit peu. Et puis voilà, ça c'est avec des modalités différentes, c'est resté.
Jean-Luc, alors, pour ces personnes qui ne franchissent pas forcément encore le pas aujourd'hui, pour aider, pour accueillir, pour s'engager, c'est positif.
C'est positif, oui.
Voilà, il faut oser le faire.
On a encore un petit peu
non.
de temps.
Non,
ah bon.
C'est pour ça que vous entendez
voilà.
le générique.
D'accord.
Dans le casque. Merci en tout cas Roland et Marie-France Franquemagne pour leur engagement, notamment à Lompon et sur Orge et dans leur association. Merci Hervé de Ferrodi. Merci Jean-Luc Buisson. On retrouvera évidemment toutes les informations sur le site de radionotredame.com avec les podcasts de cette émission. Merci à tous. À très bientôt.
Merci.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Préparer et passer des entretiens d'embauche peut se révéler un vrai parcours du combattant. Qu'attend-on aujourd'hui des candidats? Est-ce que les processus de recrutement ont évolué? Réponse ce mardi dans Quête de sens.